SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler de terroir, d'histoire et surtout de whisky. Je vais vous laisser vous présenter, parce que je fais souvent ça quand il y a deux invités. Donc, allons-y.
Eh bien, bonjour. Jean-Arnaud Franzen, je suis le maître de chez Michel Couvreur depuis 1998.
Cyril Deschamps, je suis le gendre de Michel Couvreur. Et nous sommes avec Alexandra Couvreur Deschamps, les propriétaires de l'entreprise Michel Couvreur, depuis 2007. Et nous travaillons en famille, puisque j'ai deux de mes garçons qui travaillent avec nous.
D'accord, voilà. Alors parlons peu mais parlons bien du whisky, c'est ça Michel Couvreur?
Oui.
Parlez-nous un petit peu de l'histoire de la maison et du whisky. Je serais tenté de dire, bon, c'est une tradition plus celte, en tout cas ce qui dirige plutôt vers l'Écosse, mais il y a du whisky un peu partout dans le monde, on va discuter de ça. Alors parlons un petit peu de la maison Michel Couvreur.
Exactement. Eh bien, Michel Couvreur est un Belge passionné des vins de Bourgogne qui s'est installé en Bourgogne en 1951. Il a décidé d'ouvrir un chai d'élevage. À l'époque, c'était le négoce. Et à l'époque, on lui a dit, vous êtes belge, donc vendre sur le territoire français, c'est pas terrible. Mmh. Et lui, il s'est dit, moi, j'ai mes entrées en Belgique, des entrées en Grande-Bretagne. Et il a commencé à proposer ses vins de Bourgogne en Grande-Bretagne. Je vais essayer de résumer un peu, mais fin des années 70 et début des années 80, un peu moins satisfait de la qualité des vins de Bourgogne, et c'est sa clientèle haut de gamme, alors qu'il s'était installé à Londres, lui demandait, mais Michel, est-ce que vous n'avez pas les moyens de nous trouver des whiskies? Et c'était ainsi qu'il est allé en Écosse, savoir comment on faisait le whisky. Et pour résumer, le whisky, c'est ni plus ni moins qu'un alcool de céréales, qui est vieilli au minimum 3 ans dans un fût de bois d'une contenance inférieure à 700 litres, et qui conserve un degré supérieur à 40.
C'est la base du whisky.
Ça, c'est la base du whisky, et c'est universel. C'est-à-dire que on peut faire du whisky partout dans le monde, mais je pense qu'on y viendra par la suite.
Oui, tout à fait. Justement, ce produit, je parle au maître de chai qui est avec nous. Qu'est-ce qui fait un whisky spécifique? Il y a le whisky écossais, il y a les whisky irlandais, il y a les whisky japonais, il y a les whisky bretons. Enfin, qu'est-ce qui fait que votre whisky est un petit peu différent? Est-ce que c'est le bois? Est-ce que c'est la nature du produit en lui-même? Où est-ce qu'on voit la différence?
Alors déjà, pour l'origine, en fait, on est à côté de Beaune, on est en Bourgogne. Et l'idée, c'est simplement d'être à mi-chemin entre l'Andalousie et l'Écosse.
D'accord.
C'est-à-dire que nous, on fait vieillir nos whisky dans des fûts de Xérès. Et Michel Couvreur a démarré vraiment ce projet de whisky en se disant, je veux absolument me trouver des fûts de vin. La tradition du scotch, c'est l'élevage dans des très très vieux fûts de Xérès. Ma cave est à mi-chemin entre l'Écosse et l'Andalousie. Les saveurs chaleureuses de l'Andalousie associées au frimas et au froid de l'Écosse, je suis entre les deux, j'ai réuni les deux. Nous, notre particularité, c'est vraiment le vieillissement. C'est la qualité de pas de travailler sans filtration, tout par gravité, et d'essayer d'obtenir une texture, une persistance, une longueur, une complexité, un équilibre. Souvent, on a des articles qui nous lient au vin. On a une approche du whisky qui est assez proche du vin dans la dégustation. Ne pas avoir de sensation d'alcool et des équilibres, même des acidités, des rondeurs, des complexités, et c'est exactement ça qu'on cherche. Notre approche est un peu le fait d'être au milieu de la Bourgogne. On a tous une formation un peu de vin avant de démarrer le whisky, et c'est ce qu'on aime. C'est vraiment avoir retrouvé ces équilibres-là qui apportent une complexité, une émotion qu'on aime dans le whisky.
Ouais, on dit pas qu'on en met dans le biberon, mais pas loin quand même.
Ah, on a démarré jeune. Hein.
Est-ce que le climat y joue pour beaucoup dans le produit fini?
Alors ça, c'est les grosses questions. Il y avait Andrew G. Ford qui avait fait un article qui était passionnant, c'est Location Does Matter, qui essaye de dire est-ce que vraiment l'origine, l'endroit où on fait du whisky est important. Et ça, c'est des grosses questions. Alors nous, en ce moment, on y travaille beaucoup parce qu'on a commencé à distiller en janvier 2022 avec de l'orge locale, biodynamique, en bio. Maintenant, c'est des questions qui sont toujours assez complexes, parce qu'il y a énormément de facteurs qui interviennent dans une qualité d'un whisky. Le maltage, les fermentations, le type d'alambic qu'on utilise, l'âge. Évidemment, un jeune whisky qui a 3 ans, l'influence du fût est peut-être moindre qu'un whisky qui a 12 ans ou 25 ans. Donc il y a énormément de facteurs, mais en même temps, c'est ce qui est passionnant. C'est-à-dire que le whisky standard n'existe pas.
Il y a un facteur essentiel que nous, on constate tous les jours, c'est le taux d'humidité de notre cave. Mmh. Notre cave est 15 mètres sous la roche, 2 fois 130 mètres de galerie sous la roche, que mon beau-père, Michel Coureur, avait fait creuser à l'époque pour le vin, et qui, depuis 1989, accueille des alcools de céréales qui ont été vieillis. Puisque pour la petite anecdote, ma belle-mère avait refusé que mon beau-père puisse acheter une distillerie en Écosse. Et justement, l'aventure familiale, c'est qu'aujourd'hui, avec Alexandra, on a remonté, comme Jean-Arnaud en parlait précédemment, 7 distilleries en 2022 avec deux de mes garçons, Albéric et Stanislas. Et que l'objectif, Alexandra, son plus grand souhait, ce serait peut-être un jour de revenir en Écosse pour monter aussi une distillerie en Écosse. Et comme ça, la boucle serait bouclée. Mais le terroir, est, en tout cas, nous on croit au terroir du fût. Et de la qualité, en fait, des fûts de sherry qui ont été imprégnés pendant des grands vins, pendant plusieurs dizaines d'années, par des grands vins de Bourgogne.
C'est la clé du whisky, ça? C'est vraiment la clé?
En fait, il faut imaginer l'alcool comme un vecteur des arômes. Donc, vous pouvez mettre un excellent alcool, excellemment bien distillé, dans un fût. Si le fût n'a rien contenu au préalable, il va restituer des saveurs de vanille, de côté d'amande douce, mais ce sera pas très complexe. En revanche, si le fût a été imprégné pendant plusieurs dizaines d'années par un vin, et seuls les vins essentiellement de RRS vieillissent plusieurs dizaines d'années dans le fût, eh bien là, vous allez pouvoir avoir l'alcool va extraire toute la complexité aromatique qui restait piégée dans les fibres de bois, et là vous allez obtenir avec le temps vraiment une émotion fabuleuse grâce au whisky.
Alors la question d'après, c'est qu'est-ce que devient le fût du whisky une fois qu'il est utilisé pour le whisky, où est-ce qu'il va? On fait quoi derrière?
Eh bien derrière, justement, on va utiliser pour d'autres whisky. Si le fût, en fait, globalement, si le fût a été imprégné pendant 50 ans, on va pouvoir globalement l'exploiter pendant 50 ans. Et après, nous, ce qui se passe sur les fûts qui n'ont plus rien à donner, eh bien, on va l'utiliser. Alors autrefois, parfois pour le barbecue, tout simplement.
On en fait des tables, des chaises,
et
on
après,
fait des bars à pizza.
Et voilà. Et nous, on a notre parquet qui a été refait en fait dans nos bureaux avec les douelles de fût.
Ouais, c'est incroyable.
Non, moi je. Nous, on apprécie un fût et c'est. Il a toujours une vie. Et donc nous, on adore faire des échanges de fûts.
Exactement.
Et donc maintenant, vous avez toute une tradition. Il y a des domaines de vin comme le Stéphane Tissot dans le Jura, comme Cantillon à Bruxelles qui fait des bières vieilles dans des fûts de whisky. Il faut considérer que le chêne est imputrescible. Et ça, il faut vraiment toujours le garder en tête. C'est quelque chose qui servait pour le transport au départ, qui a permis de faire voyager des vins et des alcools à travers le monde. Et maintenant, même après 50 ans, nous, on a des fûts qui ont 120 ans, 130 ans en cave. C'est un musée, c'est une histoire et c'est une imprégnation qui est énorme. Donc, on donne nos fûts à des vignerons, donne les fûts à des brasseurs de bière qui marquent l'aromatique avec nos whiskies.
Et ça donne du goût au barbecue, ou pas?
Oui, alors moi j'ai toujours un petit peu... J'ai une larme qui coule à chaque fois quand j'ai une douelle de fûts qui
coule
dans le barbecue.
Je vous pique, oui.
Mais vous avez raison, c'est une très très bonne idée.
Petite question et après on va repartir sur l'historique et le futur de votre maison, mais est-ce que l'évolution climatique vous fait peur en tant que maître de chai? Vous pensez à 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans en avance. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une certaine appréhension sur l'avenir justement de produits alcooliques comme les vôtres?
Alors, je pense qu'on est obligé d'y penser, ça c'est certain. Évidemment, il y a plusieurs raisons, parce que vous avez à mon avis, il y a à peu près trois raisons là-dessus. La première, évidemment, c'est la production de céréales. Donc, le changement climatique, évidemment, influe sur la production de la céréale. La deuxième chose, j'allais dire, bon, là, on est un peu moins impacté, mais c'est sûr que ce que disait Cyril, les températures de cave, les humidités des caves interviennent sur le changement climatique. Mais évidemment, le gros point, c'est que produire, distiller, consomme beaucoup d'eau, consomme beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites comme une bière, c'est une recette de bière que vous allez distiller. Donc une bière, c'est des paliers de température qui sont entre 60 et 80 degrés Celsius, qu'il faut refroidir pour avoir une fermentation alcoolique. Et après, on refait des paliers à 90 degrés qu'on condense pour condenser les vapeurs d'alcool pour obtenir un liquide. Donc on passe à des paliers à chaque fois entre 20, 80 tout le temps. Et vous partez d'un fruit sec et vous obtenez un liquide. Donc évidemment, ça c'est des gros sujets. Donc nous, on se pose beaucoup de questions là-dessus et en même temps, il ne faut pas le prendre comme un côté négatif. C'est un peu un challenge de se dire, produire un whisky en consommant moins d'énergie, en gaspillant pas l'eau. Et maintenant, ça paraît presque naturel de le faire, mais il faut y réfléchir dès maintenant.
Mais pour vous, il faut garder une certaine constance dans le produit fini également. Un produit de votre maison, c'est un produit de votre maison. Ou est-ce que vous allez adapter justement le produit final dans vous projetez déjà à 20 ans, 30 ans, 40 ans c'est... en avance par rapport à ce que vous avez aujourd'hui?
C'est obligatoire. C'est-à-dire que nous, on est des entreprises où vous pouvez pas, on réfléchit à un an, c'est très bien, on y discute, on fait des réunions d'équipe. Par contre, des réflexions, c'est plutôt à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je n'ose pas dire 20 ans, mais c'est vrai que c'est sur du long terme. Et en même temps, c'est la magie de notre travail. Sans Michel Couvreur, moi, je ne serais rien. La cave, il y a le stock serait zéro et on ne pourrait rien faire. Comme de la même façon, les enfants de Cyril, dans 10 ans, 15 ans, quand ils reprennent, sans ma petite brique, sans la brique de Cyril et Alexandra, ils ne peuvent rien faire. Et c'est la magie de nos travaux. C'est-à-dire que forcément, vous dépendez des générations précédentes et c'est la vie et on est juste un passage, un moment et on essaie de constituer un stock. Donc ça, évidemment, il faut y réfléchir. La gestion du stock, c'est un travail permanent. Vendre pour pouvoir faire ce qu'on aime et proposer des très bons whisky, mais en même temps, ne pas tout vendre, conserver, pouvoir faire vieillir, réfléchir, est-ce que ce distillat est capable de vieillir 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on offre à la génération suivante? Mais ça, ça fait partie, je trouve, justement, un peu de la magie de nos métiers.
Bah, c'est le côté beau pour vous de penser que vous ouvrez des bouteilles que votre beau-père a mis en fût, il avait encore 25 ans.
Et exactement, c'est ça qui est absolument fabuleux. Et comme le disait Jean-Arnaud, ce qui est même encore plus satisfaisant, c'est de pouvoir transmettre à nos enfants, c'est-à-dire que là, ce qu'on produit aujourd'hui, ce sera mis en bouteille dans 15 ans. Dans 15 ans, Jean-Arnaud et moi, nous serons à la retraite, enfin j'espère.
Je vous le souhaite en tout cas.
Et c'est ça qui est fabuleux. Mais néanmoins, par rapport à votre question sur l'avenir, parce que nous, notre sourcing, c'est la problématique de trouver des vins qui imprègnent longtemps des fûts. Et aujourd'hui, notre sourcing est à 90% provient de l'Andalousie. Mais réellement, effectivement, c'est un problème. C'est-à-dire que produire des vins de RRS pour mettre en fût aujourd'hui, avec le réchauffement climatique par exemple, eh bien, ce n'est plus au goût du jour. Et effectivement, on peut se poser la question dans 15 ans, est-ce qu'on aura encore des vins de RRS et encore des fûts pour trouver? Mais figurez-vous que ça fait 3 jours que nous sommes en Australie.
Et vous avez trouvé des fûts.
Non. Vous avez, mais exactement, les vins mutés en fait en Tasmanie. Pour nous, c'est hyper rassurant de se dire que il y a encore notamment il y a le cépage chavagnin qui a été planté. On aura encore des vins mutés. Ces vins-là sont encore appréciés. C'est encore des vins qui vieillissent longtemps en fût, qui ne connaissent pas justement le soufre, les sulfites. Et pour nous, c'est juste rassurant de savoir qu'on aura encore une quête à faire et pouvoir faire un partenariat, enfin faire des échanges et de voir que les limites géographiques finalement elles sont obsolètes.
Alors d'un autre côté aussi, juste un pont avec la politique, on aurait pu avoir peur que dans une politique économique commune, à un moment ou un autre, les Écossais disent le whisky c'est chez nous et pas ailleurs. On sait que les Français ont été les rois des appellations d'origine contrôlée pour un bien en tout cas, mais là il y a peut-être un peu moins de pression puisqu'ils ont quitté l'Europe. Mais est-ce que pour vous ça reste quand même un peu un risque quand même de dire aujourd'hui à un moment ou un autre les Écossais peuvent dire le whisky c'est nous et vous faites un autre produit qui est équivalent mais qui est pas du whisky. Est-ce qu'il y a une peur là-dessus ou c'est tellement ouvert que maintenant le whisky c'est du whisky?
Alors en fait sur la définition du whisky, comme je l'ai dit tout à l'heure, distillat de céréales qui vieillit minimum 3 ans en fût de bois d'une contenance inférieure à 700 litres et qui conserve un degré supérieur à 40, et je pense que nos auditeurs maintenant connaîtront exactement, il n'y a aucune référence au terroir. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs on parle des whiskies japonais qui commencent à être connus de plus en plus.
Il y a une belle réputation autour des whiskies japonais.
Exactement, mais cela dit, une réputation qui n'est absolument pas volée, puisque ça fait plus de 100 ans qu'ils distillent C'est pas nouveau.
Ils ont la culture du saké. Enfin, il y a une autre, il y a toute une culture autour de tout ça.
Et comme en France, nous, on avait cette culture du cognac et de l'armagnac,
des alcools blancs,
des eaux de vie. Donc, il est naturel qu'aujourd'hui, en France, on trouve plus d'une centaine de distilleries et la Fédération des Whisky de France, qui a démarré en 2016, dont nous faisons partie, est en train de mettre en place justement une réglementation pour protéger son savoir-faire, comme l'a fait la Scotch Whisky Association en 2009. Et maintenant, on parle du Scotch Whisky, mais on va parler après du French Whisky et du Japan Whisky et ainsi de suite.
Et puis, je pense qu'il y a un gros sujet sur l'origine des whiskies, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est une céréale. Donc la difficulté, quand vous avez une plante annuelle par rapport à une plante pérenne, évidemment, on nous rétorque toujours les Français, on aime ces appellations d'origine contrôlée, mais quand on parle de la vigne, vous avez une relation sol-climat d'une plante pérenne, et vous avez des relations entre ce climat qui sont entre 20, 30 ans, 100 ans. Là, on est sur un fruit sec annuel. Vous semez, vous récoltez. Donc là, on est toujours sur un produit où vous êtes des fois à la bourse à la céréale. Évidemment, c'est un peu notre challenge avec Cyril et Alexandra de dire travailler une orge locale, essayer de sourcer des vieilles variétés d'orge pour essayer d'avoir ce lien-là. Maintenant, moi, ce que je crois davantage, c'est la recette, c'est le savoir-faire. Là où ils sont très forts les Écossais, où il faut remettre, c'est cette tradition, ce savoir-faire comme les Japonais.
C'est aussi l'image de marque. Hein.
C'est l'image de marque, évidemment, c'est ce que les gens connaissent le plus, comme les Japonais qui ont, comme vous dites, quoi, de savoir obtenir du sucre à partir d'un grain de riz, c'est un challenge. Il faut quand même imaginer que vous n'avez pas de sucre à l'intérieur, faire une fermentation alcoolique à partir d'une céréale et faire transformer l'amidon en sucre, c'est un défi. On se dit, les gens étaient quand même très motivés au début pour imaginer une recette pour extraire du sucre et faire une fermentation alcoolique.
Ouais, c'était pas nécessaire de dire, je vois du riz, je vais faire de l'alcool.
Non, là,
c'est pas évident
comme ça. Et c'est là où on se dit, évidemment, les Écossais ont mis des recettes en place, ont des qualités d'eau. Évidemment, souvent, on parle de terroir lié à l'eau, mais est-ce que ça justifie? Maintenant, ils ont une appellation qui est très forte, qui est le Scotch, qui est presque comme une marque. C'est plus une marque vraiment qu'une appellation, un savoir-faire, une tradition qui est extraordinaire. Maintenant, en effet, je pense que les portes sont ouvertes, que vous en avez partout dans le monde entier.
Est-ce qu'il y a des acteurs qui vous font peur dans ce marché?
Je nomme
les Chinois, par exemple.
Les plus gros producteurs.
Ouais. Consommateurs également,
consommateurs,
en termes de volume.
Mais surtout producteurs. Mm-hmm. Ou les Baijiu, vous imaginez les quantités de volume qu'ils distillent. Évidemment, c'est comme beaucoup de choses, c'est-à-dire que maintenant il y a une grande vulgarisation sur beaucoup de produits, c'est-à-dire que tout le monde veut boire de tout. Maintenant, on le voit bien en France par exemple, vous voyez la joaillerie, tout le monde veut avoir une bague, tout le monde veut avoir de l'or, tout le monde veut en avoir. Maintenant, des grands joailliers, finalement, on est très peu à pouvoir s'offrir des bijoux, des montres exceptionnelles. Et nous, c'est ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on se dit, on ne peut pas répondre à une demande, on n'aura pas une concurrence par rapport à une production industrielle. Notre savoir-faire, c'est de l'artisanat.
Donc, quand vous me dites qu'il y a Temu et il y a LVMH, dans le whisky, c'est la même chose.
Mais on va avoir dans cette. C'est un peu, ça va être ça. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir répondre à des demandes bien spécifiques. Maintenant, attention, on n'est pas non plus des fous du. On n'aime pas ce mot luxe. En fait, on a un savoir-faire, un artisanal, mais qui est accessible pour ceux qui veulent se donner les moyens, mais qui n'est pas inabordable non plus. Mais évidemment, on ne peut pas proposer un whisky bas de gamme, pas cher. Nous demandez pas de faire un whisky à 5 euros, ça, c'est pas possible. On a un savoir-faire, on a une tradition, mais par contre, on ne veut pas de spéculation.
Mais on ne veut pas de spéculation. Et puis, le réel plaisir, là, pour la philosophie de Michel Couvreur, comme belge, et ami d'Hergé, et donc on imagine toujours Tintin qui voyageait à travers le monde, et c'est de pouvoir donner, procurer à nos clients la possibilité de trouver du Michel Coureur partout dans le monde, à petite échelle, donc sur les beaux établissements. Donc on travaille pas avec la grande distribution, de toute façon on n'a pas les volumes, on ne produisons que 70 000 bouteilles par an. Rien qu'en France, on consomme 280 millions de bouteilles. Imaginez, ça représente 0,01% ce que nous sommes, donc c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, par exemple, on est hyper enthousiaste de pouvoir représenter 3000 bouteilles en Australie, grâce à Serbaco. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment...
C'est énorme déjà, 3000 bouteilles.
Exactement.
C'est un beau chiffre.
Et c'est exactement un beau chiffre. Pour nous, c'est pour ça qu'on est là. C'est la première fois que nous venons en Australie.
Ça vous plaît?
On est ravis. Il fait super beau.
Il y a des très bons whisky.
Vous avez la chance. Il y a du bon whisky en Australie, alors, ou pas?
Et oui. Ouais, on a goûté les...
Mountain Hill.
Bakery Hill.
Ça vous a surpris?
Alors, pas surpris. Mais alors, si, agréablement surpris, parce que souvent quand des jeunes distilleries,
ça vous a pas étonné, mais ça vous a agréablement surpris.
Exactement. Parce que vraiment qualitatif. Donc c'est non, ça fait plaisir. Et parce que nous, on est aussi dans l'idée de travailler sur différents distillats. On est des éleveurs et quand on trouve d'autres sourcing de manière de distiller, c'est intéressant. Encore une fois, l'alcool est là pour porter les arômes. Et donc non, c'est vraiment vraiment intéressant.
Notre Est-ce que les jeunes boivent du whisky?
Alors, ils boivent du whisky, mais des fois de façon...
Ça vous fait mal quand ils coupent avec des boissons acidulées ou des boissons
Non, mais
autres.
Ça, c'est interdit. Ça, c'est... Enfin, et après, il y a des problèmes au niveau de la famille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des contrats, voilà, dès qu'ils naissent, c'est difficile. Donc, faut pas exagérer. Mais c'est sûr que les jeunes ont une tendance à consommer le whisky par des cocktails. Il faut pas non plus la tradition. Alors, nous, on est un peu dans cette... tradition assez ancienne de dire on va prendre un whisky en digestif, un bon fauteuil, c'est un peu caricatural, mais c'est un bon fauteuil club, le fin de repas, un cigare,
un Chesterfield.
Voilà, un Chesterfield, et on va boire un très très beau whisky, un vieux single malt qui va apporter
le chien devant la cheminée, etc.
On amène la musique, même si vous voulez, on fait tout le décor, on vous dépose le décor, mais il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on découvre. C'est pour ça que des voyages comme on fait, ce que disait Cyril, en Australie, on apprend aussi une nouvelle culture de consommer le whisky, on découvre aussi la façon de le faire dans chacun des pays, les taxes qu'on a sur les alcools, enfin des façons...
Ma question n'était pas anodine, était justement par rapport à ça, c'est qu'en fait, en Australie, moi ça fait 20 ans que je suis là, mais un truc qui je suis toujours ébahi par, c'est le fait qu'ils arrivent à casser les codes. Parce qu'en fait, ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas ces codes de 100 ans, 200, en fait, 300, 400 ans d'héritage. Est-ce que ça, vous le voyez dans des pays plus jeunes?
C'est-à-dire que des fois, nous, on est étonnés de voir plus de traditions, plus de codes dans ce genre en France. Et là, on a vu des bars où on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est classique, mais on a plus ça en France, quoi, avec des vieux single malt de la Scotch Whisky Association, enfin de l'association des single malt, et on trouve vraiment des whiskies qu'on n'arrive plus à trouver chez nous en France. Donc il y a une vraie tradition de où on apprécie encore le vieux Scotch, mais en même temps, en effet, on se rend compte que le plaisir de faire un cocktail, on a proposé au barman de nous faire un revolver, mais en deux secondes, il a inventé une recette en disant tiens, goûtez ça. Donc ça, les deux en même temps, c'est hyper intéressant d'avoir et le classique et très moderne, très nouveau.
D'accord. Bah merci d'être venu nous voir jusque là. Jusqu'ici, on est à l'autre bout du monde pour vous quand même. Hein. Donc profitez de l'Australie, profitez de ce que le pays a aussi à vous donner. J'espère que vous allez apprendre aussi de culture, et c'est sûrement ça le but d'un voyage aussi comme celui-ci.
Exactement. Merci à vous en tout cas.
Oui, merci de votre accueil.
Merci.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.